RCF.
Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 18h10, on est très heureux de vous accompagner pour une nouvelle semaine du 18-19 en Champagne-Ardenne. Dans quelques instants, place au programme de ce lundi soir. Mais avant cela, merci. Merci pour votre générosité lors du printemps du don tout au long de ce week-end. S'il a été aussi ensoleillé sur RCF, c'est aussi un petit peu grâce à vous, les auditeurs, et d'autant plus les auditeurs donateurs. Un grand merci encore une fois pour votre générosité. Mais RCF continue d'avoir besoin de vous au quotidien, ne l'oubliez pas, si tout cela est possible, c'est aussi et surtout grâce à vous. Avant de commencer le magazine régional ce soir, j'aimerais aussi avoir une pensée, comme toutes les équipes de RCF en région, pour Jackie Husson, qui a joué un rôle important dans la vie de la radio RCF France-Ardenne, à travers des reportages terrain, à travers son implication dans la paroisse du côté de Saint-Brice-Courcelles, à travers l'accompagnement des bénévoles qu'il a fait pour cette radio, notamment ceux du Sportiplex. Son dynamisme, sa générosité sont des souvenirs marquants pour les équipes de RCF, qui sont en union de prière avec la famille et les proches de Jackie Husson, dont les obsèques seront célébrées mercredi le 17 avril à 14h30 en l'église de Saint-Brice-Courcelles. On est vraiment en union de prière avec toute sa famille et tous ses proches. Au programme de ce magazine régional ce soir, on va parler intelligence artificielle avec Claude Ruiz dans quelques instants. Nous irons faire un tour du côté de Bazeille à la rencontre de son maire Marc Guéniaud qui nous parle ce lundi. Et puis en deuxième partie d'émission, on montera en barque puisque c'est le retour des balades du côté de Chalon en Champagne. On présentera l'événement Architecture en Champagne également avec Céline Coudreau qui est directrice de la Maison de l'Architecture de Champagne-Ardenne. Et puis Jean-Christophe Bobin vous donnera rendez-vous pour une conférence dont on a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Croire pour vivre, le rendez-vous c'est demain à l'heure du 18-19 en Champagne. Il faudra faire un choix. On commence par regarder sur le monde avec Claude Ruiz ce lundi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous avec cette chronique. Tout change pour que rien ne change. Et là, nos auditeurs se demandent de quoi va-t-on parler. Alors, je lance cette première question, Claude Ruiz. La technologie semble la clé du 21e siècle et l'intelligence artificielle, que l'on appelle aussi IA, constitue sa nouvelle frontière. N'avons-nous pas là une innovation qui va bouleverser la maîtrise et l'acquisition des connaissances, Claude Ruiz ?
Alors, bien entendu, je pourrais répondre oui parce que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait ces transformations, mais dans quelles conditions ? Alors,
réflexion va être un peu plus complexe qu'un simple oui ou qu'un simple non.
Voilà, c'est ça. Et puis, on va le prendre au niveau de la planète pour voir un petit peu ce que ça pourrait faire, puisque c'est en gros l'objet de notre regard. Vous avez raison, il y a une rupture très, très importante. Pour vous replacer ça dans un contexte un petit peu général et, on va dire, mondial, aux États-Unis, il y a 7 entreprises géantes qui dominent. On parle d'oligopole, hein, parce que ça veut dire quelques entreprises qui dominent cette technologie. Et au niveau de la planète, alors je parle des États-Unis parce que c'est le premier acteur, les États-Unis et la Chine sont entrés, vous le savez, dans une forte confrontation, donc avec une innovation à tout craint. Et même des fois, on a envie de dire, tous les jours, on ouvre le bouton de la radio, on a une information nouvelle sur les progrès de cette intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, que fait l'Europe ? Ben, l'Europe, pour l'instant, est un petit peu marginalisée. Elle veut s'imposer par la régulation en disant, écoutez, moi, j'arrive pas à vous suivre, mais top, attention, il faut des règles. Et il y a eu une loi de 1922 au niveau international sur les échanges de ces produits-là et elle voudrait agir par cet intermédiaire-là. Mais la rapidité des acteurs est considérable. Le leader mondial des puces, Nvidia, qui est une société américaine, est déjà, alors qu'en fin de compte, il y a quelques années, elle était mineure, elle est la troisième capitalisation mondiale. Ça veut dire qu'ils ont un stock d'argent qu'ils ont utilisé de 2300 milliards de dollars. C'est considérable par rapport même à la puissance d'État.
Quelles sont, Claude Ruiz, les principales conséquences de cette diffusion à grande vitesse de l'intelligence artificielle ? Parce que, par exemple, par rapport aux exemples que vous nous donniez il y a quelques secondes, c'est vrai qu'on se rend compte que ça va très très vite.
Ah oui, oui, ça bouleverse plusieurs aspects. Pas seulement les annonces. Pour nous, en tant qu'auditeurs, on entend chaque jour des choses qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas. Mais dans notre vie de tous les jours, ça va avoir des conséquences rapides. Les méthodes, d'abord, de production vont changer. Ça veut dire que c'est le système industriel qui va changer progressivement au niveau de la planète, l'organisation du travail. En particulier, vous savez que l'intelligence artificielle est très efficace dans la gestion des services. Et on peut penser qu'une partie des services vont basculer ou du moins vont être effectués par cette intelligence artificielle, puisque c'est là où on va avoir des gains de productivité les plus importants. Mais aussi, bien entendu, ça peut entraîner, vous le voyez, des concurrences entre les membres de l'oligopole. C'est-à-dire, quand on prend les grandes entreprises mondiales, on l'a dit tout à l'heure qu'elles se... On dit vulgairement se tirer la bourre, mais Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, enfin les grandes sociétés qu'on connaît ou Nvidia qu'on a cité, ça va très très vite. Elles cherchent à se dépasser les unes les autres pour pas être en retard, hein. Bien entendu, avec une prise de conscience du danger de la domination de ces entreprises, on l'a dit, et même une dépendance par rapport au marché financier, parce que ces sociétés consomment beaucoup de capitaux. Mais bien entendu, les capitaux, ils ne sont pas extensibles, mais vous avez bien compris. Quand vous prenez les capitaux dans un grand secteur, au bout d'un moment, ils risquent de ne pas en rester pour d'autres. Donc, sans compter que dans ces opérations économiques et financières, il y a une grande fragilité des gouvernances. Hein, ça veut dire qui peut gérer en fin de compte ces flux et bien entendu une explosion de la consommation énergétique.
Ça veut dire que si l'on comprend bien ce que vous nous dites, Claude Ruiz, cette évolution présente quand même des risques.
En effet, des risques, car pour profiter de la productivité, il faut des infrastructures. Et des infrastructures à l'échelle de la planète de cet ordre-là, puisque des entreprises fonctionnent souvent hein, à l'échelle de la planète, ces infrastructures sont gigantesques. Elles absorbent beaucoup d'énergie et là, on tombe en contradiction, vous le savez, avec ce qu'on a appelé depuis quelques années la transition énergétique. On veut faire des économies et là, au contraire, on rentre dans des structures qui sont hyper consommatrices en fin de compte d'énergie. De plus, il y a, et ça touche l'aspect social, une destruction massive d'emplois qualifiés. On l'a dit tout à l'heure, soit dans les services, soit parfois dans des systèmes industriels. Il faut des gens qui aient des formations au niveau du bac, vous le savez, de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ben, ces emplois-là, pour certains, ils vont pouvoir être pris par l'intelligence artificielle. Et donc, par conséquent, vous le voyez, ça va déclasser des populations, et ça, c'est quelque chose qui est important. Sans compter la multiplication des attaques cybernétiques, hein, puisque là, on est dans quelque chose qu'on ne mesure pas. Il peut y avoir, bien entendu, vous le savez, on le cite toujours, des menaces sur la démocratie, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'information, comment va se passer peut-être la désinformation. Je vous rappelle, pour exemple, que dans la moitié des cas, on ne peut pas faire la différence entre une image humaine et celle produite par l'IA. Hein, on s'est aperçu que c'est plus de 50% des cas où on n'arrive pas à faire la distinction. Donc vous voyez, je veux dire, si on est abreuvé d'informations de ce type-là, c'est qui les fournit, comment est-ce qu'on est capable d'analyser. Donc il y a même, vous le voyez, un risque démocratique un petit peu global.
Est-ce que ces systèmes sont régulables ?
Ces systèmes, dans le cadre mondial, c'est impossible actuellement du fait, vous le savez, et ça c'est global, de l'affaiblissement des institutions multilatérales. On s'aperçoit que depuis quelques années, soit on les respecte pas, soit ceux qui devraient être les plus actifs pour faire respecter des cadres internationaux les utilisent pas. Donc les institutions multilatérales sont souvent fragilisées. Il y a des conflits entre les États, entre les sociétés, vous comprenez ça. Donc il y a une confrontation qui est de plus en plus ouverte. Puis vous avez vu, au niveau de la planète, il y a des conflits armés. Tout ceci rajoute, en fin de compte, aux tensions et aux choix. De fait, on s'aperçoit que les États-Unis cherchent à accroître leur avance. Ça, c'est un élément important. Ils sont un petit peu en avance sur ce cadre-là. Et puis, comme ils sont en avance, ils peuvent imposer des embargos en disant « Ben non, écoutez, moi j'ai découvert ça, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser, sauf en passant par mes fourches codines, c'est-à-dire je vais vous donner le cadre dans lequel vous pourrez l'utiliser. » Donc, ils sont un petit peu maîtres du jeu. La Chine, bien entendu, qui tente de combler son retard, et l'Europe qui cherche difficilement des moyens de régulation. Donc l'Europe agite le fait qu'elle peut freiner peut-être les échanges au niveau international, mais bien entendu, on s'aperçoit qu'il faut qu'elle soit très forte, C'est relativement difficile dans les négociations internationales avec, vous le savez, même une fuite des talents. Ça veut dire qu'il y a des chercheurs en Europe. Si vous ne leur donnez pas le champ de recherche, ils risquent de partir aux États-Unis, par exemple, hein, pour continuer.
Claude Ruiz, généralement, vous terminez vos chroniques par essayer de donner des tentatives de solutions, en tout cas une sorte de conclusion avec un esprit d'ouverture. Claude Ruiz, qu'est-ce que vous proposez ?
En réalité, par rapport, il y a la régulation d'un côté, mais l'Europe doit investir dans des secteurs clés, peut-être en faisant des choix, mais les grands pays européens sont capables peut-être de faire ces choix.
Merci Claude Ruiz de nous avoir éclairé donc sur l'intelligence artificielle. Tout change pour que rien ne change. C'était l'objet de votre chronique aujourd'hui. À très bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Direction les Ardennes, direction Bazeilles, Marc Guéniaud est le maire de cette commune. Il nous parle ce lundi soir au micro de Jean-Pierre.
Marc Guéniaud, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que Bazeilles, on connaît bien sûr à côté de Sedan, dans les Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la commune de Bazeilles? Combien d'habitants? Quel type de population? Des retraités? Des agriculteurs? Des gens qui vont travailler à Sedan? Une petite photographie, monsieur le maire.
La commune de Bazeilles est aujourd'hui ce qu'on appelle une commune nouvelle, puisque nous nous sommes mariés avec des communes qui sont en périphérie, avec Villers-Cernay, Rubécourt et Lamécourt, et depuis le 1er janvier 2024 avec La Moncelle. Aujourd'hui, on dénombre 2750 habitants. C'est une commune dynamique avec une belle zone industrielle, une belle zone commerciale, où la population est plutôt dans la tranche d'âge moyenne. Nous maintenons de la jeunesse sur la commune, puisque nous sommes en développement permanent de l'habitat et nous prévoyons encore un prochain lotissement.
Ça veut dire que peut-être aussi, je ne sais pas si c'est exact, hein, Marc Guéniaud, vous allez nous le dire, avec le Covid en particulier, il y a des gens qui aiment avoir un petit morceau de terre, un petit jardin, quelque chose qu'ils ne peuvent pas forcément avoir en ville, par exemple à Sedan ou à Charleville-Mézières, et ils viennent de... Est-ce que vous avez vu des personnes arriver comme ça?
Oui, alors on a ce phénomène que l'on a pu constater, mais on a aussi également un turnover, hein. On a aussi certaines personnes qui, prenant de l'âge, ont aussi des velléités de retourner en plein centre d'une commune un petit peu plus dense. Voilà. Mais en tout cas, on arrive à maintenir notre population au-delà de 2700 habitants.
Et vous êtes Marc Guéniaud, maire délégué de Bazeilles, déjà depuis quelque temps?
Oui, alors je suis élu sur la commune de Bazeilles depuis plus de 20 ans. J'ai été donc conseiller municipal, ensuite adjoint. Et depuis le dernier mandat des années 2020, je suis effectivement maire délégué de la commune de Bazeilles.
Alors c'est vrai qu'on dit aujourd'hui, il y a des gens qui refusent, qui ne veulent plus se remettre dans un nouveau mandat, parce que c'est vrai que, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur, et on s'en rend compte nous dans nos émissions, le travail de maire dans une commune, c'est pas aussi évident, c'est très prenant, il y a beaucoup de choses à faire, on ne se rend pas compte.
Oui, alors tout à fait, c'est un véritable métier aujourd'hui, hein. Les choses sont très complexes. Alors tout d'abord, lorsqu'on est élu et lorsqu'on est maire, je crois qu'il faut aimer les gens, hein. Ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut avoir en soi, puisque nous sommes là pour aider, accompagner, renseigner. Nous sommes là pour impulser une politique qui va, bien évidemment, rejaillir sur la vie de nos administrés. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, donc il faut donner beaucoup de temps. Il faut donner beaucoup de temps aussi pour toute la partie administrative, puisque les règlements, les directives, les lois à appliquer sont effectivement très nombreuses.
Mais plus la commune est importante, on le voit dans les grosses villes, mais dès qu'une commune prend un petit peu d'importance, c'est vrai qu'on peut encore bénéficier de secrétariat, d'une petite équipe enfin qui peut aider le maire. Sinon, dans les toutes petites communes, c'est vraiment impossible. Le maire doit tout faire.
Oui, alors effectivement, dans une commune comme Bazeilles, c'est aussi, j'allais dire, une tranche de population charnière pour justement les personnels de la mairie. Nous n'avons pas les moyens suffisants pour avoir une grosse structure qui nous coûterait des charges salariales extraordinaires, mais nous avons tout de même besoin d'avoir des collaborateurs de qualité pour assurer tout de même le fonctionnement de la mairie et le bien-être de nos habitants.
Alors parmi les projets, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Est-ce qu'il y a des projets en cours qui sont en train de se réaliser ou qui viennent de se terminer? Ou avez-vous des projets à plus long terme, à moyen ou à long terme, Marc Guéniaud?
Oui, alors je crois que le projet qui nous tient à cœur depuis ce début d'année 2023 et qui va, je crois, s'inscrire dans le temps, et c'est un projet de création de maisons de santé. C'est un projet que nous avions dans notre profession de foi donc en mai 2020. Le projet de maison de santé qui voit le jour aujourd'hui, puisque nous avons identifié un bâtiment qui était une propriété de la commune de Bazeilles. C'est la maison Soichet, rue de Flamanville. Et dans cette maison, nous prévoyons d'y faire cette maison de santé avec plusieurs cabinets mis à disposition de praticiens.
Ça veut dire, Marc Guignot, je vous interromps, mais c'est vrai que c'est un problème qui va être majeur, et vous avez raison sans doute d'anticiper, c'est le manque de médecins généralistes, mais aussi peut-être de spécialistes ou d'infirmiers ou d'infirmières ou kinés dans le monde rural et même dans le département des Ardennes en général.
C'est tout à fait vrai en ce qui concerne la médecine générale, au premier chef. Nous avions sur la commune de Bazeilles deux médecins généralistes, dont une a fait valoir ses droits à la retraite. Le deuxième, le docteur Fauchard, est toujours parmi nous, mais il ne consulte plus que 3 jours par semaine. Donc il nous fallait anticiper, bien évidemment, cette affaire. Et nous travaillons justement avec les praticiens locaux pour développer cette maison de santé.
Et le projet va prendre sans doute plusieurs années. Et quand vous dites praticiens locaux, c'est pas forcément des médecins de médecine générale. Ça peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être des infirmiers, des kinés. Enfin, vous allez voir, enfin, quelque chose autour de la santé.
Oui, alors aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir annoncer que pour cette maison, tout d'abord, nous avons le permis de construire. On va pouvoir prévoir et lancer les appels d'offres. L'ouverture est prévue pour le premier trimestre 2025. Et en ce qui concerne les praticiens, eh bien nous avons recruté un chargé de mission pendant 6 mois qui nous a permis de développer un certain nombre d'attractivités. Et nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir avoir fait signer 4 praticiens, c'est-à-dire 2 médecins généralistes qui vont nous rejoindre, donc un plus ancien et un plus jeune qui démarre. Et également, pour répondre à la question, 2 infirmières locales viendront occuper un des cabinets. Et puis, nous aurons également la joie d'accueillir une Bazeillaise également, qui a, elle, été diplômée en orthophonie.
On peut dire que ça va changer aussi la vie, en particulier des habitants de Bazeilles, parce qu'ils n'auront pas à courir partout. Et évidemment, est-ce qu'il y a une pharmacie à Bazeilles ?
Ah, complètement.
Il y a une donc il y a quand même, à Bazeilles, on trouve tout, on a quand même tout sous la main. On peut pas, on peut aller bien sûr à Sedan si on veut, peut-être une grande surface. Mais enfin, on a quand même beaucoup de choses.
Ah oui. Alors nous avons effectivement une pharmacie, nous avons un masseur kinésithérapeute également, nous avons plusieurs infirmières. Et effectivement, la maison de santé va pouvoir venir compléter toute cette offre médicale et paramédicale. Nous avons également une maison de retraite, un EHPAD, sur la commune de Bazeilles, qui a également besoin d'avoir un médecin qui soit un peu le médecin référent de cette maison. Donc tout ça est en train de bien se mettre en place, les planètes sont en train de s'aligner, et je crois que dans le premier semestre 2025, eh bien, nous pourrons inaugurer cette maison de santé.
Merci en tout cas, Marc Guignot, d'avoir été avec nous. Vous êtes maire délégué de Bazeilles, dans le département des Ardennes, dans cette émission. Votre maire nous parle. Alors il faut dire, Marc Guignot, que comme vous avez d'autres sujets, mais ce que je vous propose, c'est d'ici quelques semaines de revenir et de réaliser une autre émission pour voir un certain nombre de dossiers que nous n'avons pas ouverts avec vous aujourd'hui.
Eh bien, tout à fait. Je suis à votre disposition, Jean-Pierre. Merci beaucoup.
Merci, Marc Guignot, d'avoir été avec nous et à très, très bientôt sur RCF.
Merci à tous les deux. Et vous le savez, Jean-Pierre, quand je prends la suite derrière vous, j'aime bien réemployer vos formules. Alors, si vous me le permettez, quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce lundi 15 avril, Ardennes Métropole a présenté son budget primitif 2024. L'agglomération se veut toujours plus rigoureuse, mais va continuer d'investir. À Vitry-le-François, des lycéens chalonnais découvrent les métiers liés au handicap. Reportage.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Alerte vent violent sur le Grand Est. Jusqu'à minuit, Météo France a placé les départements de l'ex-Champagne-Ardenne en vigilance jaune prudence si vous empruntez la route. Pour son budget 2024, Ardennes Métropole se veut toujours plus rigoureuse afin de continuer à investir sans augmenter les taxes des habitants. Le budget primitif a donc été élaboré avec rigueur pour ne pas rogner sur les investissements d'une part et ne pas augmenter les taxes des habitants d'autre part. Depuis sa création il y a 10 ans, Ardennes Métropole a investi 202 millions d'euros grâce à un accroissement de la dette de 34 millions d'euros et 37 millions d'euros d'aide extérieure. La baisse des investissements n'est donc pas envisageable et 37 millions d'euros seront encore investis en 2024 sur le territoire de l'agglomération. Boris Ravignon, président d'Ardennes Métropole, au micro de RCF France Ardennes.
Pour Ardennes Métropole, qui a investi 200 millions d'euros depuis 10 ans. Ardennes Métropole a été créée pour ça. Et donc, je pense que sur ce sujet-là, elle tient ses engagements, elle tient la promesse pour laquelle elle a été créée, investir sur notre territoire. Il y a plein de choses dans lesquelles on était en retard. On a réalisé l'investissement dans un campus. On avait loupé dans le passé cet axe essentiel de la formation des jeunes. On essaie de le rattraper et tant d'autres sujets, notamment le développement économique. Donc on doit absolument tout faire pour continuer à maintenir notre capacité d'investissement. On le voit, on a aussi besoin d'investir dans des bâtiments plus économes en énergie. Donc tout cela a un coût, mais derrière, on paye des factures d'énergie qui sont plus faibles. Bref, effectivement, on a un budget qui est un budget résolument tourné vers l'investissement, parce que je crois que c'est ce qu'on attend d'Ardennes Métropole. Il y a à la fois la gestion des services publics, mais c'est aussi qu'on attend qu'elle soit la locomotive de notre territoire. Et je crois que ce budget 2024, eh bien, effectivement, au prix d'une rigueur sur la gestion, va nous permettre de continuer à investir.
Du côté des taxes, principales recettes de l'agglomération, elles n'augmenteront pas. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste à 10,10%. Les contributions foncières des entreprises n'augmenteront pas avec un taux stable de 23,82%. Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation n'augmenteront pas non plus, tout comme la taxe Gemapi. Après la Haute-Marne, en fin de semaine dernière, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, était dans la Marne ce lundi, une journée où ses rencontres et visites ont été autour de la viticulture. On lui a notamment présenté à Plumecoq, au site expérimental du comité Champagne de Chouilly, la certification viticulture durable en Champagne. C'est aussi là que, juste après, il a visité le domaine en Champagne vignoble en transition. La journée s'est terminée à Haï, où Franck Leroy a rencontré Alexandre Chagall, un jeune vigneron bio depuis 2017, membre de l'association des champagnes bio. Le lycée Frédéric Ozanam de Châlons-en-Champagne met au centre de son projet éducatif les jeunes et valorise le rapport humain pour ses différentes filières.
Vous faites quoi en activité manuelle, par exemple ?
Les photos.
L'album photo. Très bien.
Afin d'immerger les étudiants des sections se tournant vers des métiers de la santé et du social dans ce qui sera leur futur, Francis Beauvau, professeur de PS, et l'équipe qui l'entoure ont lancé un projet ambitieux, deux journées en immersion au sein d'établissements spécialisés dont celui de Vitry-le-François. Francis Beauvau nous partage ses motivations.
Moi, dans ce service-là, j'ai travaillé SAJ, j'y ai travaillé pendant 10 ans. Là, actuellement, je travaille en tant que prof de PS. Donc à Ozanam, donc ça me paraissait normal d'exploiter cette situation, de mettre en lien les deux structures et donc de mettre ce projet inclusion sociale. En travaillant dans l'éducation nationale, l'inclusion sociale est une priorité, donc accueillir tous les élèves en situation de handicap. Donc c'est la loi de 2005. Et donc pour bâtir une école inclusive, voilà, ayant travaillé dans cette structure-là, ça me semble aussi normal de revenir de temps en temps voir ce que deviennent les usagers, quoi. Le but aussi, c'est d'élargir un petit peu aussi les consciences et puis d'aller sur d'autres valeurs comme la bienveillance.
Le 10 avril dernier, 6 étudiantes de première ST2S se sont rendues au sein du service d'activité de jour, établissement de l'association des parents d'enfants inadaptés de Vitry-le-François, pour aller à la rencontre de personnes en situation de handicap. Elles nous partagent leur ressenti.
Ça m'a permis de découvrir le monde de l'handicap, comment ils interagissent avec nous et comment ils travaillent. On ne sait pas comment ils vont réagir face à nous, on ne sait pas quel échange on aura avec eux, mais j'ai très bien vécu ce moment.
J'avais déjà fait plusieurs stages dans ce domaine. C'est vrai que ça m'a rappelé justement mes stages et c'est pour ça que je veux faire ce métier-là. Ça confirme mes choix de vouloir devenir ES.
Le lendemain, les 60 étudiants chalonnais ont passé la journée à Giffaumont-Champaubert aux côtés des 14 usagers du service d'activité de jour, le tout à travers des activités ludiques.
Christopher Fausten depuis Vitry-le-François. Demain, mardi à 18h30, dans le cadre des grandes conférences dans la grande salle de la mairie de Reims, sera abordé le thème « Croire pour vivre » en présence d'Éric Courtois, professeur à la faculté de sciences, de Gérard Lemarié, philosophe, et de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Entrée gratuite, sans réservation. On en parle davantage dans quelques minutes avec Jean-Christophe Bobin qui sera votre invité, Jean-Pierre. Un week-end de sport, mi-figue, mi raisin pour nos principaux clubs locaux, mais d'abord une belle performance individuelle à souligner. L'Ardennaise Méline Rollin a remporté le 10 km sur route en championnat de France élite en 32 minutes et 52 secondes. En football, vendredi soir, le Stade de Reims féminin est allé accrocher un bon match nul de partout sur la pelouse du Paris FC. Les Rémoises restent quatrième et bien placées dans la course aux play-offs. Leurs homologues masculins n'ont pas brillé et se sont fait dominer 3-1 par Strasbourg dans le derby du Grand Est. Reims recule à la 8e place de Ligue 1. En Ligue 2, Troyes a connu une nouvelle déconvenue face au Paris FC. Défaite 1-2, l'Estac est 17e, relégable et compte 3 points de retard sur Dunkerque. En volley, leader de la saison régulière, Chaumont a subi la loi de Tours en demi-finale de play-off. Défaite 3-7-2 sur son parquet. La manche 2 est prévue à Tours mercredi. En basket, le Champagne Basket continue son ascension fulgurante et enchaîne un 6e succès de rang. Victoire 78-70 à Boulazac. L'Alliance champenoise est désormais 6e de Pro B. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et on part en balade dans cette deuxième partie d'émission. Prendre l'air depuis 2005. L'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne propose des balades en barque sur le Mau et le Nau, les deux cours d'eau qui traversent la cité chalonnaise. Cette année, la saison sera marquée par l'inauguration de la requalification de l'îlot Notre-Dame-en-Vaux ce samedi 20 avril. Laurence Padiou est avec Christopher Fausten.
Laurence Padiou, bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'Office de tourisme de Châlons-Champagne, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter ce grand retour, cette nouvelle saison à la fois de l'Odyssée et de Métamorphose, deux rendez-vous incontournables pendant cette période estivale qui approche à grands pas du côté de Châlons-Champagne. Tout d'abord, l'Odyssée qui a démarré le 6 avril dernier. Quelques mots sur cette manifestation.
Oui, l'Odyssée, c'est la balade en barque de jour qui permet de découvrir le patrimoine chalonnais sous un angle insolite, celui de l'eau. Donc là, il s'agit d'une balade conduite par un pilote qui joue également le rôle de guide et qui raconte au fil de l'eau l'histoire de notre ville et de ses monuments.
Et Métamorphose, même version, mais en mode nocturne.
Voilà, Métamorphose, c'est le pendant de l'Odyssée, mais de nuit. Et nous sommes sur une balade qui relève davantage du spectacle, puisque il y a moins de prise de parole de la part de notre pilote, mais il y a des spectacles, puisque les monuments et les ponts deviennent le support de spectacles lumineux, de mapping.
Alors pour nos auditeurs qui nous écoutent, un petit avant-goût de ce rendez-vous Odyssée et Métamorphose, si on pouvait donner un ou deux moments forts.
Alors pour ce qui concerne Métamorphose, il y a six mappings tout au long de la balade. Il y a deux ans, en 2022, nous avons totalement refait le spectacle qui se situe dans le Petit Jard sur le Château du Marché. C'est toujours un lieu extrêmement apprécié. Le Château du Marché est un très bel édifice emblématique de la ville de Châlons. Et puis cette année, nous avons aussi refait un spectacle totalement, en ce qui concerne son contenu, sur la façade de Notre-Dame-en-Vaux. C'était un choix que de refaire ce spectacle à un moment où l'ensemble de l'îlot Notre-Dame-en-Vaux est dans un renouveau total.
Le 20 avril prochain, Laurence Padiou, à 21h, aura lieu l'inauguration de la requalification de l'îlot Notre-Dame-en-Vaux avec un spectacle à la hauteur de la transformation mise en œuvre par la commune sur ce quartier historique. Et de plus, vous présenterez le nouveau spectacle Métamorphose sur la façade.
Oui, c'est ça. On a voulu créer un moment festif autour de Notre-Dame. Les travaux ont été longs, parfois pénibles pour les Chalonnais. Donc, nous a semblé important de fêter l'événement de fin des travaux, même s'il restera quelques petites choses à faire. Donc, en 2017, lors du premier spectacle Notre-Dame en feu, nous avions déjà, avec la ville et l'agglomération, conçu un spectacle avec le concours de Fury. Eh bien, nous avons décidé de renouveler l'opération et cette année, ce sera un spectacle de funambule qui sera présenté à 21h, qui durera à peu près 40 minutes. Et puis ensuite, les personnes présentes seront invitées à se décaler un petit peu vers Notre-Dame-en-Vaux et le quai Barba et le quai Notre-Dame pour découvrir le spectacle de Notre-Dame-en-Vaux, le mapping, et qui, pour cette soirée exceptionnelle, sera agrémenté de sons.
Un rendez-vous très attendu pour lancer, entre guillemets, ce nouveau quartier, ce nouveau visage du centre-ville de Châlons-Champagne.
Oui, oui, c'est effectivement un élément important. Je crois que Notre-Dame méritait cette mise en valeur précédemment avec les bus qui étaient là. On ne voyait pas à quel point cet édifice était majestueux et je trouve que les travaux permettent d'admirer beaucoup mieux la collégiale.
On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison touristique du côté de Châlons-Champagne. J'imagine que le programme s'annonce très chargé.
Oui, oui, on est sur les starting blocks. Et après cette saison hivernale, toute l'équipe de l'Office de tourisme est très impatiente de recevoir les touristes.
Eh ben, très bonne saison à vous, Laurence Padiou. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directrice de l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne. Très bonne saison.
Merci à vous.
Merci Laurence et Christopher. Depuis Châlons-en-Champagne, après plusieurs mois de fouilles, suivis de nombreux mois de travaux, l'îlot Notre-Dame est complètement métamorphosé. Parcourez ces changements et l'histoire qui entoure la collégiale Notre-Dame-en-Vaux en compagnie d'un guide conférencier pour découvrir Châlons comme vous ne l'avez jamais vu. Infos et réservations sur le site de l'Office de tourisme de Châlons-en-Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Et tout de suite, on retrouve un nouvel invité, Jean-Christophe Bobin, directeur adjoint de la pastorale de l'enseignement catholique avec Jean-Pierre.
Jean-Christophe Bobin, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup de m'accueillir.
Alors c'est vrai qu'on a l'occasion de vous interroger parce que vous êtes impliqué dans la pastorale de l'enseignement catholique.
Voilà.
Et il y a un cycle de conférences très importantes, Croire pour vivre. La prochaine conférence a lieu le mardi 16 avril, c'est à 18h30, c'est à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Reims, avec l'archevêque de Reims en particulier.
Exactement.
Donc, de quoi voilà. S'agit-il alors?
Alors de quoi s'agit-il? En fait c'est un cycle que nous avons mis en place à trois. Donc, moi, je représente la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique et donc je suis responsable de l'animation pastorale. Il y a également donc Gérard Lemarié, qui est un professeur de philosophie à la retraite donc de Jean 23 et qui est inséré dans le monde de la culture rémoise. Et Jean-Marie Beaupuis, qui est un ancien député européen. Et donc, à nous trois, nous avons décidé de monter un cycle de conférences sur le sens de la vie. Et donc, nous avons décliné cela en différents thèmes, aimer pour vivre, créer pour vivre. Et donc, cette quatrième conférence vient donc mardi prochain, 16 avril, Croire pour vivre. Alors, effectivement, là, il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer le 16 avril, parce que, alors déjà, c'est que les intervenants sont toujours de très grande qualité, bien sûr, Monseigneur de Moulin-Beaufort, mais également le docteur Éric Courreau, donc qui est maître de conférence à la faculté des sciences de l'université de Reims, et donc qui justement a une démarche un peu inverse, qui est de justement dire mais moi j'ai peut-être pas besoin de croire, voilà, et qui a plus une démarche scientifique et de l'approche de l'existence. Mais malgré tout, dans son discours, il y a quelque chose qui reste malgré tout de l'ordre du fait de croire, qui est, ben moi je crois pas forcément en Dieu, mais je crois en l'homme. Alors il y aura cette discussion qui va être animée par, bien sûr, Jean-Marie Beaupuis, entre Gérard Lemarié sur le point de vue philosophique. Effectivement, quand on voit l'histoire des hommes, ben on voit que la question de la croyance, elle arrive très vite. Et puis la question, évidemment, particulièrement avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, ben, la foi chrétienne, mais pas que, en termes de, effectivement, la question anthropologique derrière, eh bien, quelles sont les grandes questions existentielles, hein, qui je suis, où est-ce que nous allons, d'où nous venons. Et puis Éric Courreau, l'aspect exactement un peu plus scientifique.
Mais non, c'est quand même pas le débat, on va pas entrer bien sûr dans le débat de la conférence. Dieu et la raison, dans une forme de rationalisme qui existait autrefois, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'opposition entre science et foi, que la science peut nourrir la foi et la foi peut donner un éclairage particulier à la science. Ça va être un débat, mais ça va être aussi en public, dans un endroit Et exactement. Qui est l'hôtel de ville de Reims, donc oui, qui est très ouvert.
Alors ça, c'est extraordinaire. C'est une grande joie pour moi de voir qu'on peut avoir ce type de discussion. Plus qu'un débat, c'est une discussion.
Hein. Une rencontre.
Voilà, ouais. Une rencontre entre les personnes. On ne cherche pas à convaincre ou avoir
et
raison.
Et en général, depuis que ça existe, vous avez du monde dans ces conférences. Oui.
Ah bah oui, on est toujours à plus de 300 voire 500 personnes à chaque fois. Donc les personnes qui veulent participer, il faut venir tôt parce que effectivement les places sont quand même limitées.
C'est à 18h30.
C'est à 18h30, donc dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Et donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'un point de vue symbolique.
Jean-Christophe Bobin, c'est un engagement dans cette conférence qui est devant un public très large, dans un lieu emblématique, eh ben oui. La ville de Reims, l'hôtel de ville.
Ben voilà, hein, donc la mairie pour aller, qui est dans un état laïque républicain, eh bien pour la question de croire pour vivre. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, j'apprécie énormément cette possibilité aujourd'hui qui nous est offerte par la mairie de Reims. Nous saluons bien sûr toute l'équipe municipale qui nous accueille et son maire. Et donc, c'est vrai que c'est de pouvoir porter cette question, finalement, de dire ben, pour l'homme, effectivement, il faut croire en quelque chose. Même celui qui dit qu'il ne croit pas, c'est une forme de croyance, finalement. Ou que quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, ben oui, ben, très bien.
Comment fait-on pour ça? Faut-il s'inscrire? Alors, on vient au dernier moment, pas au dernier moment, vous avez dit.
Alors, il faut éviter d'arriver au dernier moment parce que les places seront limitées, hein, de toute façon. Mais faut arriver suffisamment à l'avance. Nous avons généralement des gens.
Il y a de la place quand même dans cette salle des fêtes.
Oui, mais le monde est là. Hein. Nous avons rempli Saint-André, qui faisait presque plus de 500 personnes. Nous avons rempli également la chapelle de Saint-Joseph, l'ICP, la salle Sorbonne. Donc on a tout un public qui nous suit, ça marche très fort et on s'en réjouit. Donc on encourage vraiment les gens à venir. Il y a des gens qui arrivent une heure avant. Hein,
alors si on anticipe un petit peu avant de revenir à cette conférence, dans les prochaines semaines, il y en aura une autre. Ça sera au mois de mai, alors je crois.
Alors voilà, ce sera donc la dernière de ce cycle de conférences. Et donc ce sera à la basilique Saint-Rémy avec donc Antoine Frey sur Ensemble pour vivre.
Alors Antoine Frey, présentation.
Alors
rapide.
Présentation d'Antoine Frey, un homme d'affaires de Reims qui est multinationale.
Le groupe Frey.
Voilà, le groupe Frey, exactement. Et donc en fait, ce qui est très intéressant là, c'est que sur cette conférence qui va venir clore le cycle, eh bien, on va parler de comment est-ce que nous vivons les uns avec les autres. Et un enjeu aujourd'hui, c'est de vivre
ensemble. Pour vivre.
Mais je dirais vivre en frère, c'est-à-dire reconnaître en chacun la même dignité. Hein, ce n'est pas la fraternité au sens familial du terme.
J'ai envie de vous interrompre, mais il y a l'enseignement catholique, mais peut-être que... Est-ce qu'il y a des jeunes qui participent à ces conférences?
Alors justement, c'est un défi pour nous. C'est d'amener le monde scolaire, donc les enseignants. Donc ils ont été invités. On a invité particulièrement les chefs d'établissement de lycée qui nous ont dit qu'ils seraient là avec une délégation d'enseignants d'APS. Donc APS, c'est animateur ou adjoint pastoral, pour venir assister à ces conférences et voir comment, avec leurs élèves, ils pourront amener leurs élèves à ces conférences. Donc pour l'année prochaine, puisque nous avons décidé, bien sûr, face au succès de cette première année, de continuer. Alors, ils peuvent déjà noter la date que la première conférence pour l'année prochaine sera le 17 octobre. C'est un jeudi et non pas un mardi. D'habitude, nous prenons les mardis, mais là, il y a une circonstance particulière. C'est que le jeudi 17 octobre, il y aura cette conférence. Donc... qui sera à l'ICP, salle Sorbonne. Et on aura le temps d'en reparler d'ici là, voilà.
Donc on redonne le coup de projecteur
sur le
7 avril, voilà. Mardi 7 avril.
Voilà, et le 28 mai. Et donc on invite vraiment les gens à venir, parce que là, ça va être un moment particulier où la question de la foi, des croyances que nous avons, va être abordée dans un lieu laïque et républicain. Et donc quand on connaît l'histoire de France et toutes les vicissitudes qu'il y a pu y avoir entre l'Église et l'État, hein, eh bien on sait que le débat a parfois été très compliqué. Et là aujourd'hui, il me semble que le débat, eh bien les conditions du débat sont apaisées. Et donc ça, on peut s'en réjouir.
Croire pour vivre dans ce cycle de grandes conférences, ce sera, on le rappelle plusieurs fois, tout le monde est invité.
Oui.
Quand on dit 18h30, si on vient à 18h, c'est pas mal.
Oui, oui, hein,
parce qu'il faut quand même.
Oui, oui.
Et puis en plus, il faut quand même dire une petite anecdote quand même importante, c'est qu'il faut se garer si on est en voiture. Et dans le centre-ville, voilà. Se garer à 18h30 à côté de la mairie, il faut aller au Boulingrin dans les environs et c'est quand même parfois relativement complet.
Effectivement, ça
prenez vos dispositions.
Voilà. C'est bien de le préciser. En tout cas, tous les gens qui assistent à ces conférences sont toujours
enchantés
par la qualité des intervenants. Ça, c'est tout à fait incroyable.
Merci Jean-Christophe Bobin d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Christophe.
Rendez-vous 16 avril avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Gérard Lemarié, philosophe, le docteur Éric Courreau, maître de conférence à la Fac des sciences, et puis vous-même avec Jean-Marie Beaupuis. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, au revoir.
Rendez-vous est pris pour demain soir. Vous pourrez aller assister sans scrupule à cette conférence. Rentrez chez vous, vous branchez sur le site rcf.fr. Dans la rubrique programme, vous retrouverez le magazine régional en replay. Tout est possible. Vous ne manquerez rien de l'actualité, même et surtout si vous allez à la conférence Croire pour vivre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine cette émission en retournant du côté de Chalon Aglo. Lancée en 2017, la Maison de l'Architecture Champagne-Ardennes et l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy, Architecture en Champagne, c'est l'événement qu'elles organisent, revient cette année pour une 5e édition qui aura lieu du 19 avril au 1er mai 2024, évidemment. Zoom sur la formation et la programmation avec Céline Coudreau, directrice de la Maison de l'Architecture de Champagne-Ardennes, avec Christopher.
Bonjour Céline Coudreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette nouvelle édition. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de l'architecture en Champagne ?
Oui, donc ce concept est un concept pédagogique. À la base, on a constaté dans le territoire de Champagne-Ardennes un manque d'enseignement supérieur autour de l'architecture.
Oui.
Il n'y a pas du tout d'école d'architecture dans ce sens-là. Il y a l'école d'architecture d'intérieur ou autre, mais pas d'école d'architecture. Comme il n'est pas question de créer une école de ce genre dans ces temps actuels, on a réfléchi à un programme un peu différent, mais qui fait venir l'enseignement supérieur d'architecture sur nos territoires, qui l'ancre aussi dans notre territoire par sa spécificité, c'est-à-dire le champagne et la partie viticole. Après plusieurs réflexions, plusieurs pistes, on a choisi ce format de workshop de 12 jours qui se déroule avant c'était l'été et donc maintenant ça sera au mois d'avril. Donc c'est un format court mais très dense et assez innovant par le fait qu'on travaille aussi bien le travail purement d'architecture qu'on fait dans les écoles d'architecture classiquement, oui. C'est-à-dire la conception, le dessin, l'imagination, mais aussi la fabrication de ses propres mains par les mêmes personnes dans un atelier à Chalon en Champagne pour créer un objet qui va être après utilisé et mis en place dans le paysage champenois et qui, on espère, fera développer, enfin il l'a déjà fait depuis 4 ou 5 ans et continuera de le faire, fera développer l'œnotourisme en Champagne-Ardenne.
Quand on dit le territoire champenois, ça comprend une partie du territoire de la Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Aube ?
Tous les territoires qui ont l'appellation Champagne. Donc, en effet, il y a l'Aube, un petit peu de l'Aisne. Pour l'instant, on n'a pas de loge là-bas. Ça ne s'est pas encore fait, mais on espère pouvoir le faire un jour. Et bien sûr, la Marne, que ce soit la Vallée de la Marne, les Coteaux-Vitria ou d'autres secteurs, tout vignoble appellation Champagne.
Après une pause depuis 2021, ce défi pédagogique donc revient sous un nouveau nom, une nouvelle période. Pourquoi ce choix ?
On a en effet plusieurs changements. Le changement de nom fait aussi changement de gouvernance et d'organisation.
Oui.
Avant, donc, le maître d'ouvrage était Chalon Aglo, avec des prestataires, dont la Maison de l'Architecture en prestataire principal. Et ce format-là était assez lourd à gérer, assez compliqué, parce que les lourdeurs administratives font que c'est souvent assez long, toutes les démarches à faire, et puis aussi pour pouvoir être un peu plus à la fois rapide et puis actif, répondant rapidement à toutes ces improvisations.
Oui.
Et donc, il a été décidé de créer une association qui s'appelle Architecture en Champagne. Et donc, on a donné le nom de l'événement à cette association, un nom plus simplifié et qui ancre encore plus dans le territoire, c'est-à-dire on ne parle plus d'architecture et Champagne, mais vraiment en Champagne. Donc, même si on parle bien sûr de d'œnologie et de viticulture, on parle avant tout du territoire.
Céline Coudreau, déjà 4 éditions réalisées. Quel retour faites-vous aujourd'hui ?
Alors, en 4 éditions, on a construit donc 23 loges. Je n'ai pas le nombre exact d'étudiants qui ont participé, mais il y en a plus d'une centaine en tout cas, oui. De plusieurs pays, de plusieurs écoles. Donc, c'est une formation pluridisciplinaire, aussi bien des étudiants en architecture que des jeunes professionnels déjà installés, des étudiants ou des jeunes professionnels d'autres filières comme l'œnologie, la viticulture, mais aussi l'architecture d'intérieur, les ZAD de Reims par exemple cette année, le génie civil, le travail du bois. Voilà, enfin tout, c'est ouvert vraiment à plein de disciplines. Les loges depuis 2017 vivent leur vie. Alors ça dépend après du vigneron, puisque les loges sont cédées aux vignerons accueillants et participants pour chaque loge. Chaque loge, après, a sa petite vie œnotouristique qui est suivie aussi par Chalon Agglo et en particulier l'Office du tourisme de Chalon, pour après essayer de développer aussi bien un réseau dans le tourisme que après plus local aussi. Donc il y a eu plusieurs animations de fêtes, aussi bien par la Maison de l'Architecture que par les offices du tourisme ou des partenaires privés qui utilisent et font vivre ces loges, que ça soit pour des moments dégustation, pour des étapes de randonnée ou pour d'autres choses. On a fait même des concerts, des petites pièces de théâtre, des choses comme ça.
Place à la nouvelle édition avec la participation d'une trentaine d'étudiants comme chaque édition. Un programme riche qui va se dérouler du 19 avril au 1er mai. Céline Coudreau, comment va se dérouler cette cinquième édition ?
On va commencer par l'inauguration, le lancement de cette édition chez notre partenaire viticulteur et vigneron chalonnais, Joseph Perrier. Oui. Après cette introduction et l'accueil de nos participants, tout de suite on se met au travail dès le samedi 20 avril. Des étudiants vont aller rencontrer les vignerons l'endroit où la loge sera installée, pour vraiment s'imprégner du lieu, des usages, de savoir ce que le vigneron veut faire dans ce lieu, qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ce lieu avant et comment se fait le travail de la vigne tout autour et qu'est-ce que c'est la vigne et le champagne. Donc en une journée, ils vont apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et le lendemain jusqu'au lundi midi, ils vont devoir plancher sur le projet en dessin, en maquette, en imagination, pour pouvoir proposer dès le lundi 14h dans l'atelier aux vignerons un projet ou plusieurs projets avec des options, ça dépend des fois. Oui. Et cette présentation est ouverte au public, donc les Chalonnais sont invités, les Chalonnais et les Marnais, voire plus loin s'il y en a qui veulent faire la route,
bien sûr,
sont invités à venir dans l'atelier pour assister à cette présentation de projet. Et elle sera suivie d'ailleurs d'une masterclass, donc d'une sorte de conférence assez dense sur le paysage, animée par un de nos partenaires aussi principaux depuis le début et qui est d'ailleurs à l'origine aussi de cette idée d'enseignement supérieur rattaché à la viticulture. C'est la mission UNESCO qui sera à même de nous présenter les paysages champenois avec un paysagiste, Hervé Leroy. Et puis après la conception, on attaque la construction. Donc les étudiants vont mettre en forme le projet qu'ils ont imaginé pendant ces quelques jours, aidés de compagnons du devoir et de leur chef d'équipe architecte. Plein d'autres outils et autres formations rapides de techniques de construction. Tout ça avec d'autres masterclass, une sur le réemploi et une sur les collectifs d'architecture. Vous trouverez le programme sur le site internet s'il y a besoin pour aller voir. Tous ces moments masterclass et présentations sont ouverts au public à l'atelier Avenue de Paris à Chalon. Et donc avec une présentation des loges normalement terminée le lundi 29 avril à 10h30 dans l'atelier. Ce moment-là est vraiment le plus important parce que c'est un bon aboutissement de travail, même si c'est pas encore tout à fait terminé, mais vraiment le résultat est là dans l'atelier. Il n'est pas encore dans les vignes, mais on voit vraiment tout le processus et de création et de fabrication des étudiants en quelques jours qui prend forme dans l'atelier. Et donc dès l'après-midi et le lendemain, les loges seront redémontées pour être emmenées dans leurs parcelles et remontées par les étudiants eux-mêmes, aidés des vignerons, pour être installées à l'emplacement qui était prévu. Et donc le 1er mai, les cinq nouvelles loges 2024 seront en place pour accueillir les touristes.
Plus d'informations, architecture-en-champagne.com. Merci Céline Coudreau d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directrice de la Maison de l'Architecture de Champagne-Ardenne. Et on vous souhaite une belle cinquième édition d'Architecture en Champagne qui aura lieu donc du 19 avril au 1er mai prochain. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Cette année, les 5 parcelles sélectionnées rassemblent une commune, une exploitation familiale, une maison de champagne, une coopérative et un établissement d'enseignement viticole. La commune de Chigny-les-Roses, le champagne Lost à Bassuet, le champagne Henriot à Reims, la coopérative de Nogent-la-Besse et Avize Viticampus. Ainsi se referme ce magazine régional. On se retrouve demain, mardi, 18h10 pour de nouvelles informations. Si vous nous avez pris en cours d'émission, on vous rappelle la triste nouvelle que l'on a appris pendant le week-end. Jackie Husson, qui a joué un rôle important dans la vie de votre radio RCF Reims-Ardennes à travers des reportages, à travers son implication auprès de bénévoles impliqués également dans la paroisse de Saint-Brice-Courcelles, nous a quittés. Son dynamisme et sa générosité sont des souvenirs qui ont marqué les équipes de RCF qui sont en union de prière avec la famille et les proches de Jackie Husson, dont les obsèques seront célébrées mercredi 17 avril à 14h30 en l'église de Saint-Brice-Courcelles. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais sur RCF. L'information revient dès 7h sur RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. Très bonne soirée.